les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale. En partenariat avec le groupe VIB.
Thierry Borsa.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire, le groupe VIB. On va s'intéresser aujourd'hui à des acteurs du monde de la santé qui sont, du fait de l'épidémie, au cœur de notre vie quotidienne. Et plus précisément, à ceux qui se sont parfois sentis comme les grands oubliés de la première vague de l'épidémie de Covid-19. Je veux parler des nombreux établissements de soins privés qui s'étaient organisés dès le printemps dernier pour accueillir les malades et dont les lits sont parfois restés vides malgré des hôpitaux publics voisins débordés. Alors heureusement, dans cette deuxième vague, ils ont pu davantage tenir leur place et ils jouent chaque jour un rôle non négligeable dans la réponse du système de santé à la crise sanitaire. Non seulement en accueillant des patients Covid, mais aussi pour soutenir des hôpitaux qui sont obligés de déprogrammer certains soins pour des malades atteints d'autres pathologies et dont il est nécessaire d'assurer la prise en charge. Et puis, ils sont également très présents dans l'accompagnement de ceux qui ont été touchés par la Covid-19 avec des formes sévères et pour lesquels des soins de suite sont indispensables. Nous sommes allés à la rencontre de deux dirigeants de ces établissements. À la clinique Bénigne-Joly en Bourgogne, un établissement du groupe mutualiste qui est notre partenaire, on avance dans cette crise sanitaire main dans la main. Avec le CHU de Dijon, c'est presque un modèle de coordination entre le public et le privé. Mais comment cette coordination s'est mise en place? Qu'est-ce qu'elle apporte en termes de prise en charge de tous les patients? Nous accueillons sa directrice, Paola Burdin, pour nous l'expliquer. Bonjour Paola Burdin, comment votre établissement s'est impliqué aux côtés du CHU de Dijon pour accueillir les patients dans cette deuxième vague de l'épidémie?
Alors, cette participation a été réalisée sous différentes formes. La première, ça a été par la mise à disposition de personnel de la clinique pour participer aux opérations de dépistage de la Covid, notamment sur l'agglomération dijonnaise, sous forme de drive, sous différentes formes. Et on a même aussi mobilisé une équipe mobile pour pouvoir se rendre chez les patients qui pourraient être atteints. On a également mis en place des blocs déportés au sein de la clinique. Donc ça consiste en ce que des praticiens du CHU puissent venir intervenir avec leurs patients au sein de nos blocs. Donc ça a représenté 86 interventions là depuis qu'on l'a mis en place. Ça fait à peine deux semaines et demie. Et ça se poursuit hein, tant que les tensions hospitalières existeront. On a également créé des unités Covid, une en médecine qui peut accueillir jusqu'à 20 patients et une dans notre service de soins de suite qui peut accueillir entre 6 et 12 patients.
Tous les patients qui sont pris en charge dans votre établissement, ce sont des malades qui souffrent de la Covid-19 ou est-ce qu'il y en a qui sont soignés pour d'autres pathologies?
Alors, on a et des Covid et des non-Covid. Alors, pour les non-Covid, c'est plutôt par la chirurgie qui sont accueillis, à savoir sur des interventions urgentes ou des risques de perte de chance. Donc, toute la partie bloc déporté, mais aussi de nos propres chirurgiens, s'est poursuivie dans ces conditions-là pour les non-Covid, de manière à vraiment maintenir une permanence des soins, puis surtout éviter la rupture. Sur la partie des Covid, donc là, on a accueilli des patients plutôt du CHU pour libérer chez eux des lits pour qu'ils puissent continuer à absorber, entre guillemets, hein, les demandes de patients hospitalisés dans le cadre du Covid. Donc, en général, quand on nous transfère des patients, c'est des patients déjà un peu stabilisés sur lesquels il n'y aura pas de réanimation nécessaire puisque nous n'avons pas de lit de réanimation.
Pour mettre en place cette coordination avec le CHU, vous avez traité en direct avec lui ou vous êtes passé par l'intermédiaire de l'Agence régionale de santé?
Dès la première vague, nous avions déjà engagé cette collaboration et naturellement, lorsque l'ARS nous a demandé justement de produire une feuille de route sur le risque de deuxième vague, on est reparti un peu sur le même schéma en déployant même un peu plus puisque par rapport au bloc déporté, nous avions fait l'expérience avec un seul chirurgien, enfin une seule spécialité qui était la chirurgie thoracique. Et là, cette fois-ci, on l'a étendu à de la gynécologie, de l'urologie, du digestif, du vasculaire, de l'orthopédie. Donc là, on est passé à une autre dimension. Alors c'est vrai que sur la première vague, ça a été de manière assez spontanée, hein, les choses, on les a faites à notre échelle sans trop se poser de questions. Sur cette deuxième vague, bon, bah, l'intérêt, c'est qu'il y a l'expérience. Donc, on sait déjà comment organiser les choses. Après, c'est effectivement, on allait encore un peu plus loin.
Il semble que l'épidémie, elle est en train de ralentir, que le pic est passé. Dans ce contexte, vous allez poursuivre comment cette participation à la gestion de la crise sanitaire ?
Aujourd'hui, effectivement, on peut penser que le pic est passé. Cependant, il reste les suites du Covid. On a également un service d'hospitalisation à domicile que je n'ai pas cité précédemment, mais qui intervient également dans cette gestion de l'épidémie et notamment sur la prise en charge de patients post-Covid. Donc, c'est des personnes qui retournent à domicile, mais pour lesquelles il y a encore besoin de suivi.
Alors justement, au-delà des cliniques et du soin qu'elles apportent, d'autres établissements de santé prennent aussi leur part dans l'accompagnement des patients. Et notre deuxième invité, il est le directeur de l'un de ces centres, le centre des Châtelets, à côté de Saint-Brieuc, en Bretagne. Un établissement de soins de suite et de rééducation qui fait, lui aussi, partie des structures de notre partenaire, le groupe Vive. Alexandrino, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place des soins de suite spécifiques pour les patients Covid ?
En fait, on était donc au mois de mars-avril, au printemps, j'ai plus les dates exactes, mais c'est vrai qu'on a pu observer d'assez loin ce qui se passait dans l'est de la France et puis dans la région parisienne. Et on voyait, on nous annonçait un tsunami comme eux arrivant vers l'ouest. Et on s'est tous préparés en territoire et en se demandant quel rôle on pouvait jouer, de quelle manière on serait impacté, en fait, en imaginant que ça pouvait être dans la même, à la même échelle que ce qui se passait dans le Grand Est notamment. Et rapidement, donc nous ici, on s'est mobilisé avec l'équipe médicale avec l'idée de se dire que comment nous, nos compétences peuvent servir à répondre à cette crise sanitaire qui concerne tout le monde, toute la population, et comment on peut s'inscrire dans cette mission de service public. C'était vraiment l'idée qu'on voulait pas se cacher, quoi. Donc on s'est d'abord rapproché de notre hôpital, l'hôpital de référence voisin du GHT, le centre hospitalier Saint-Brieuc, et puis on, dans un premier temps, on s'est positionné en leur disant que on accélérait toutes nos admissions habituelles, tous nos rythmes de fréquence de commission d'admission pour pouvoir délester au maximum leur lit de médecine afin qu'ils puissent accueillir le plus grand nombre de patients Covid possible. Et puis, au bout de quelques jours, il ne se passait pas grand-chose finalement de neuf et on a eu le temps d'encore de mûrir notre projet et on s'est dit, mais on a quand même des compétences ici de rééducation de tous les métiers, hein, parce qu'on a un SSR polyvalent et de personnes âgées et polydépendantes, mais avec quasiment tous les métiers de la rééducation. Et on s'est dit, mais ces patients Covid, probablement qu'à l'issue de cette hospitalisation, on voyait l'urgence, l'aréa, mais derrière, que va-t-il se passer pour eux? Les patients très affaiblis, peut-être sont-ils mieux chez nous que main nue dans un lit d'hospitalisation de courte durée. Et on a monté un parcours, un parcours Covid, post-Covid, on a appelé d'ailleurs, de réadaptation post-Covid. Donc, c'est-à-dire avec du personnel dédié, un secteur dédié, des parcours logistiques dédiés, des parcours d'admission dédiés. En gros, on a dédié un secteur de notre établissement, un quart de notre établissement, pour une équipe volontaire à même d'accueillir des patients Covid et de leur créer un projet en lien avec cette pathologie qui était encore un peu inconnue à l'époque.
Ces patients, de quels troubles souffrent-ils en fait ?
Au début, on imaginait, nous, prendre des patients sortant de réanimation. Donc, en plus, on a la compétence d'un médecin ici qui a eu une longue expérience en réanimation et qui est pneumologue, donc il connaissait un petit peu les profils et qui imaginait prendre des patients 3 semaines d'alitement avec une intubation, donc avec une grosse perte musculaire, des amyotrophies, des dénutritions et des troubles respiratoires aussi en lien avec les symptômes Covid. Et puis finalement, on a eu quelques patients comme ça, mais on a eu aussi d'autres profils qu'on a découverts, parce que c'était un peu la découverte, hein, pour tout le monde, des patients finalement qui avaient décompensé une maladie chronique sous-jacente, mais qui c'était pas le Covid qui était l'élément de gravité. En fait, c'était qu'ils avaient décompensé autre chose autour et avec l'infection Covid. Et il y avait la troisième type de patients qui étaient plutôt les patients qui sont venus à l'hôpital pour un autre prétexte et pour lesquels un dépistage Covid systématique a révélé une positivité. Et donc, il fallait les prendre en charge pour toute autre chose, mais vu qu'ils étaient positifs au Covid, il fallait bien un endroit pour les accueillir. Donc, des patients au Covid peu graves mais aussi des patients en lien avec des grosses dénutritions et des grosses amyotrophies liées à la réanimation.
Qui vous adresse ces patients ?
C'était le centre hospitalier de voisins exclusivement. Donc on n'a pas eu beaucoup, hein. La Bretagne a été assez peu impactée sur la première période du printemps, on a eu une quinzaine de patients.
Et pour cette deuxième vague, alors les choses se passent comment ?
Alors du coup, la deuxième vague, la voyant arriver, on était un peu plus près, mais on a eu aussi des recommandations qui se sont allégées hein, en termes de prise en charge. Donc, et aussi, une autre réalité, c'est qu'à la première vague, tout s'est arrêté autour. Il y a eu très peu d'activités de médecine. Il y a eu toutes les programmations de chirurgie avaient été annulées dans tous les établissements. Donc, on avait une activité très ralentie, autre que le Covid. La différence de la deuxième vague, c'est que il y avait une évolution du Covid moins importante, moins violente, mais il y avait par contre beaucoup, beaucoup d'autres activités qui continuaient et d'autres problématiques à prendre en charge. Donc, ce que nous a demandé l'ARS, c'était de trouver un modèle un peu plus agile, un peu plus souple, un peu plus adaptable, sans être obligé de fermer complètement un secteur de SSR pour des Covid. Et c'est ce qu'on a créé. Donc, on a créé un parcours un peu plus allégé de patients qui viennent après 14 jours d'hospitalisation, qui ne sont donc plus dans un isolement strict comme on avait imaginé la première vague. Et donc, ils sont quasiment dans le même type de parcours que nos autres patients du SSR.
Alors justement, ce parcours, pouvez-vous nous préciser, nous dire en quoi il consiste ?
Alors du coup, on a proposé un deuxième parcours, parce que donc, c'est ça qui est nouveau depuis le mois de novembre, c'est qu'on a nos patients d'hospitalisation complète, donc il y a une unité dédiée à l'hôpital de voisin. Ils nous envoient des demandes d'admission, on se cale avec eux pour un parcours en général d'hospitalisation complète, c'est-à-dire le patient il est là il, jour et nuit avec un programme personnalisé de réadaptation selon les problématiques identifiées par l'équipe de rééducation. Donc en général, en lot commun, on va dire, on a toujours du kinésithérapie et de l'activité physique adaptée qui est très utile souvent dans la prise en charge de réadaptation post-Covid. On a toujours un bilan nutritionnel aussi, parce qu'il y a des nutritions liées à l'hospitalisation, puis quelquefois aussi liées à d'autres problèmes autour. Et les autres métiers de la rééducation ensuite viennent se greffer au gré des bilans de leurs collègues de rééducation. Donc on a de l'ergothérapie parfois, de l'orthophonie, et aussi une prise en charge de psychologue qui n'a pas été anodine, surtout sur la première vague où il y avait vraiment beaucoup de violence autour de cette pathologie, et puis l'éloignement des proches, la rupture du lien social, parce qu'ils ont été quelquefois 30-40 jours sans voir de proches. Donc l'accompagnement psychologique a aussi été un maillon fort de notre prise en charge.
Actuellement, vous accueillez combien de patients pour ces soins de suite post-Covid ?
Alors dans cette deuxième vague, là du coup, on a aujourd'hui 10 patients hospitalisés, 12 ce soir. La vague semble diminuer, donc peut-être qu'on ira jusqu'à 15 patients, mais a priori, si ça continue, on peut espérer que ça ne dépassera pas ce volume-là. Mais par contre, on a ouvert, la nouveauté, c'est qu'on a ouvert un parcours d'hôpital de jour depuis la semaine dernière, c'est-à-dire un parcours d'hospitalisation à temps partiel qui est plus destiné pour les patients qui auraient eu le Covid chez eux, mais qui ne seraient pas forcément été hospitalisés, et qui subissent à moyen terme des séquelles ou des symptômes persistants qui les handicapent dans leur vie quotidienne, notamment des essoufflements au moindre effort, des grandes fatigabilités, voire de la dénutrition aussi. Et on propose aux médecins généralistes et aux acteurs de libéraux, mais aussi à l'hôpital, pourquoi pas, de ce parcours de deux demi-journées par semaine pendant 6 semaines, pendant lesquels ils auront un programme personnalisé et un suivi médicalisé aussi alternatif par rapport à une hospitalisation complète. On leur permettra de rentrer chez eux, d'avoir un suivi rééducatif. Donc c'est une offre qu'on a développée depuis 10 jours et qui remplit aujourd'hui son premier groupe.
Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement pour votre établissement de cette implication dans la crise sanitaire ?
On espère que cette expérience, qui a été quand même très... C'est-à-dire attriste pour les équipes finalement aussi, hein. Il y a beaucoup d'anxiété et d'appréhension qui ont été bien sûr identifiées au départ pour les équipes soignantes, mais il y a aussi une forme de solidarité, d'envie de s'engager dans les missions de service public qui ont été révélées dans ces cas de Covid. Et l'effort collectif, il était quand même à souligner, et il a été généré aussi la satisfaction finalement. Donc je vois aussi un beau côté dans tout ce qui s'est passé. Malheureusement, on aimerait aussi que ça s'arrête parce qu'on voudrait passer à autre chose. Mais j'essaye aussi de voir ce que l'équipe peut en ressortir de cette expérience, et on a montré toute notre compétence sur une action, on va dire, spontanée, volontaire de l'établissement. Donc c'était quand même, voilà, on est satisfait de ce qui s'est passé et puis on espère que, voilà, ça nous servira pour d'autres projets qui seront moins dans des gestions de crise.
Une sortie de crise que tout le monde, évidemment, attend avec impatience, mais une sortie de crise qui verra aussi, on l'espère, se perpétuer de nouvelles prises en charge, de nouvelles pratiques pour un fonctionnement encore plus efficace d'un système de santé qui aura su tirer toutes les leçons de cet épisode historique. Nous arrivons au terme de ce podcast et je vous retrouverai la semaine prochaine sur Pourquoi Docteur pour un nouveau rendez-vous sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire. Merci de votre fidélité. À bientôt.